Bonjour à tous. Je vais vite tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Je réalisais hier en reculant l'heure chez nous avant d'aller me coucher que ça fait une heure de plus à être nerveux. On va lire à partir du verset 26 du chapitre 1 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 8 juillet 1731, un jeune homme de 28 ans, pour la première fois, a commencé la prédication. Et le titre de sa première prédication était « Dieu est glorifié dans la dépendance de l'homme ». Et c'est avec ce message, dans ce passage, que Jonathan Edwards a commencé son ministère. Évidemment, un titre que j'ai emprunté, quelques-uns des matériels, mais pas exclusivement, parce qu'aujourd'hui, je vais m'intéresser surtout à un thème qui revient ici, qu'on va analyser dans le passage, en regardant dans son propre contexte. C'est un enseignement peut-être un petit peu thématique dans le contexte de ce passage. Et deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment ce thème qu'on va voir est validé aussi dans d'autres passages à travers la Bible. Et le plan d'aujourd'hui, on va voir quelques notes sur le contexte et j'ai seulement deux choses à dire. On va voir quatre marques d'amour de Dieu envers nous qui sont dans le texte. Et on va voir la dépendance de l'homme. Et l'enseignement principal aujourd'hui est ceci. L'homme est dépendant de l'amour de Dieu et donc Dieu est glorifié dans cette dépendance. Et le terme « dépendance » va être utilisé dans le sens de quelqu'un qui ne peut accomplir un acte. Synonyme « esclavage »,« assujettissement »,« contrainte »,« soumission ». Il est surprenant de lire la lettre aux Corinthiens, surtout quand on regarde le langage, et on se rend compte après le chapitre 1, à la deuxième lecture de Corinthiens, que c'est un langage assez fort dans le chapitre 1. Parce que quand on finit de lire la lettre aux Corinthiens, il me semble qu'on est tous convaincus d'au moins une chose. Personne ne veut être pasteur dans cette église-là. Ancien, ou leader, ou avoir un ministère de femmes ou d'éducation. Mais quand même, le premier chapitre de Corinthiens est quand même, malgré que les Corinthiens semblaient être quasiment une gang de débauchés, puis des problèmes de discipline, puis passage après passage, Paul qui reprend la théologie, qui les enseigne, on voit des merveilles dans les premiers versets. Regardez juste au verset 2 du chapitre 1. À l'Église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Verset 3, que la grâce, la paix soient données de la part du Seigneur. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, de ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses. Le témoignage demeure fermement, verset 6. C'est quand même quand même impressionnant, parce que quand on tombe au chapitre, assez rapidement, au verset 10, il commence déjà à nous parler de discipline. Mais le chapitre 1 va servir de fondement à tout le reste de la lettre. Et dans le passage qui nous intéresse, de 26 à 31, il y a une exhortation à considérer notre appel. Et comment considérer notre appel? Bien, c'est en regardant comment qu'on était avant de venir à Jésus. Et c'est ce qu'il fait dans les versets 26 à 28. Donc, il démontre comment Dieu est venu nous arracher de comment qu'on était, de notre condition, et dans ce cas-là, il annule toutes les prétentions qu'on pourrait avoir en nous-mêmes afin de pouvoir gagner la faveur de Dieu. Pourquoi? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et l'accent du passage à l'étude, je l'ai mis ici, est sur l'initiative de Dieu dans le salut. Et le verset 27 à 28, « Mais Dieu a choisi. » Encore un petit peu plus loin, le même verset, « Dieu a choisi. » Verset 28, « Dieu a choisi. » L'accent est mis et démontré à travers les répétitions. Ceux qui aiment la philosophie, en philosophie, appellent ça un argument ad hominem. C'est-à-dire qu'on place, Paul utilise une argumentation qui place le lecteur, celui qui lit, face à une contradiction. Vous, vous pensez que vous êtes capable d'arriver à Dieu, mais regardez comment vous étiez avant. Un autre exemple souvent cité dans la littérature de ce type d'argument, de mettre face à une contradiction, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est en faveur du suicide. Alors là, il faut s'empresser de dire, bien, il va te pendre. Tu sais, il ne respecte pas lui-même ce qu'il dit. Et donc, Paul, dans son argumentation, va présenter la contradiction de se mettre toute notre confiance en nous pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Et par conséquent, bien, tout est sur l'initiative de Dieu. Et commençons par nos premières marques d'amour. Donc, je vous les donne. Dieu choisit. Dieu vous a appelé. Dieu nous a mis en Christ. Et Dieu a fait de Christ notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Et à chaque étape qu'on va voir, on va modifier ces termes afin de voir que chaque point est une marque d'amour de Dieu envers nous. Et comment qu'on va faire ça? Dieu vous a choisi. On pourrait le dire en ces mots. Dieu montre son amour envers nous en nous choisissant. Paul présuppose que personne ne va pouvoir arriver à la connaissance de Dieu à moins que Dieu ne l'appelle. Et il établit un contraste qu'on voit au verset 26 entre ce que les Corinthiens étaient avant d'être chrétiens et après être chrétiens. Et c'est souligné par les termes qu'on voit au verset 26. « Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair. » Et on l'a vu avec Michel dans les deux dernières semaines, cette idée de chair, ça l'exprime l'homme sans Dieu, sans sa relation avec Dieu. Dieu nous voit dans nos péchés. Et le péché est toujours quelque chose, premièrement, contre Dieu. Quand on désobéit ou qu'on fait un péché, on porte atteinte à la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que le péché est le péché. C'est toujours un acte de rébellion envers Dieu, fruit d'une relation qui est brisée. Et le tort commis à la gloire de Dieu demande réparation, de telle sorte que cette réparation va faire émaner la justice de Dieu, qui va faire éclater la gloire encore plus. Et en nous-mêmes, Paul nous dit qu'on n'a rien qui peut nous mettre dans une position de choix face à Dieu. C'est toujours un acte de grâce. Et dans ce cas, le présupposé de Paul, à savoir qu'il considère que personne ne peut venir à Dieu par lui-même, est validé. Pourquoi? Parce que c'est toujours un acte de grâce. C'est complètement inconditionnel. Un autre passage important pour ce qui est de l'amour dans ce que Dieu a choisi, c'est Éphésiens 1:4 que je vous lis. En lui, Dieu nous a élus, mais le même mot s'applique, c'est choisi dans l'original, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Et dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ. Au moins deux choses dans ce verset, beaucoup plus, mais au moins deux qui attirent mon attention aujourd'hui, c'est que premièrement, toutes les bénédictions qu'on a à avoir proviennent de Jésus-Christ. Et plus directement, c'est une marque d'amour, c'est dans son amour. Donc, Dieu nous a aimés en nous choisissant. Et Dieu montre son amour en nous appelant. Verset 26 encore. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Le terme appel a parfois été considéré comme ayant un sens de vocation, de rang social. Il y a tel appel, puis il est souvent interprété comme ça. Mais c'est une notion qui est inexistante dans le Nouveau Testament. Et l'appel serait défini comme ceci. On peut définir l'appel de Dieu comme cet acte de grâce par lequel il invite les hommes à accepter par la foi le salut offert en Jésus-Christ. L'appel dans le premier chapitre revient à au moins 5 reprises. Et quel genre d'appel est-ce que c'est? Lisons le verset 9 du premier chapitre. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le terme « communion » a toujours cette connotation d'intime et personnel. C'est relationnel. Il nous parle de notre participation à la vie de Christ, de notre union avec Jésus. Versets 23 et 24, nous prêchons Christ. Crucifié, scandale pour les Juifs. Folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. C'est un appel qui donne la vie. C'est un appel qui est efficace de telle sorte que nos affections sont changées et Jésus n'est plus ce rocher de scandale ou cette pierre d'achoppement, mais il devient sagesse de Dieu et puissance de Dieu. C'est un appel qui est efficace. Je veux qu'il y ait de la lumière. Il y a de la lumière. Lazare sort du tombeau. Et la mort sortit. Je veux que vous ayez la vie. Et vous allez avoir cette vie. Et cet appel nous dit, si on met d'autres passages aussi là-dedans, si on regarde Romains 1:7, nous dit qu'on est bien aimé ceux qui sont appelés. Romains 8:28, on l'a lu ce matin, puis les prédications s'en viennent, on est à veille de toucher ça. Romains 8:28 nous dit que ceux qui aiment Dieu ont été appelés. Donc, c'est un amour qui provient de Dieu, mais c'est aussi un amour qui produit un amour pour Dieu. Ça marche dans les deux sens. Il nous aime, il nous a appelés, cet appel fait qu'on veut aimer Dieu. Et Jésus n'est plus cette pierre d'achoppement, n'est plus ce rocher de scandale. Et donc, Dieu nous aime en nous ayant appelés. C'est un appel qui est efficace, il donne la vie, c'est inconditionnel. C'est un acte d'amour. Dieu nous a mis en Christ. Dieu nous a montré son amour en nous mettant en Christ. Et ces deux termes, en Christ, sont vraiment intéressants. Je vous donne quelques références intéressantes où ces deux termes sont présentés dans des passages. Oh, citation avant. L'idée est simplement que nous sommes unis au Christ et la raison pour laquelle nous le sommes, c'est parce que Dieu l'a fait. Et Dieu a fait quoi? Nous avons la rédemption en Christ, Romains 3, 24. Nous avons la vie éternelle en Christ, Romains 6, 23. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains 8, 1. Nous recevons la grâce en Christ, 1 Corinthiens 1, 4. Nous sommes une nouvelle création en Christ. Nous sommes justifiés en Christ. Nous avons le pardon des péchés en Christ. Tous ces passages attirent l'attention sur au moins deux choses. Que Jésus, premièrement, est le centre de l'œuvre ou du plan de salut de Dieu. Mais aussi, ces passages nous montrent, incluant le passage à l'étude dans 1 Corinthiens, que Jésus-Christ est l'emphase du texte est mis en ces termes, qu'il est le centre de l'œuvre dans la vie du croyant. Et donc, ça nous pousse, ou du moins ça devrait nous pousser, à aimer Dieu, à trouver notre plaisir en lui, à l'admirer, à considérer la beauté de son évangile, parce que c'est le centre pour Dieu. Mais c'est aussi le centre dans notre vie. Et donc, Dieu montre son amour en nous mettant en Christ. Mais Dieu montre son amour aussi en ce qu'il fait de Christ notre sagesse. Il montre son amour en ce qu'il fait de Christ notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Et c'est tout un défi parce qu'il y a quatre beaux mots là-dedans. Et j'attire votre attention surtout sur deux aujourd'hui. Justice et sanctification. La notion de « en Christ » qui précède, qu'on vient d'étudier, semble être étroitement liée à cette idée de justice. Au verset 30, il déclare ceci. « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour nous justice. » La justification, c'est de donner le statut de juste à un coupable. C'est l'acte de grâce par lequel Dieu enlève la condamnation prononcée sur un pécheur et place celui-ci vis-à-vis de lui-même comme croyant dans la position d'un juste. Définition un petit peu plus complète de Frédéric Godet. C'est un acte de grâce de prendre un coupable et de le déclarer non coupable. Mais c'est un acte légal. C'est un verdict. Le verdict n'enlève pas la culpabilité. Elle déclare qu'il est non coupable. Et ça demande de, comme point de départ, premièrement, le fait qu'on est coupable. Paul présuppose qu'on est coupable. Et pas juste Paul, la Bible au complet, ça commence à Genèse chapitre 3. Nous sommes coupables. Mais ça n'annule pas notre culpabilité, ça n'annule pas mon injustice, mais il nous a mis en Christ. Nous avons la justice de Christ. Et un autre beau mot, c'est ce que la Bible appelle l'imputation. C'est la justice de Christ et elle m'est imputée. Cela signifie que Christ a accompli toute justice à la perfection, puis que cette justice m'est attribuée lorsque je place ma foi en lui. Je suis considéré comme juste. Dieu a vu la justice parfaite de Christ et il m'a déclaré juste avec la justice parfaite de Christ. Oh, une répétition. Je l'ai changé sur ma feuille. Les changements qu'on voit chez une personne qui devient chrétien n'est pas la justification. C'est la sanctification. Ce n'est pas un processus, la justification. La sanctification, elle, c'est un processus par lequel on grandit dans la grâce. On peut faire l'observation suivante aussi. C'est que nous avons la sanctification et la justice en lui. De la même façon, on pourrait considérer 2 Corinthiens 5:21. Et puis il nous dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, comment celui qui n'a pas connu le péché peut devenir justice? Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il l'a pris sur lui. C'est ça l'imputation. Il l'a mis sur son compte, puis il nous l'attribue. Et ce passage à l'étude signale donc que la justice devient nôtre quand on est placé en Christ. La sanctification, tant qu'à elle, c'est une notion, commentaire de Watchman Nee, que je trouvais très intéressante. La notion courante de sanctification veut que chaque point particulier de la vie soit rendu saint. Mais ça, ce n'est pas la sainteté. C'est le fruit de la sainteté. La sainteté, c'est Christ. C'est le Seigneur qui, en nous, qui est cette sainteté. On reconnaît la plupart du temps que la justice de Dieu est un don de Dieu, mais que la sanctification doit être plutôt l'œuvre par laquelle l'homme répond à la justice qu'il a reçue. Mais ça, ce n'est pas la sanctification. Paul montre au contraire que même la sanctification, la sainteté, on ne l'a pas en nous-mêmes, mais elle provient de Christ. On n'est pas sage, on n'est pas intelligent, on n'est pas... Ça dépend de Jésus, ça dépend de Christ. Et Dieu nous aime par au moins ces quatre choses, parce qu'il nous a choisis. Et Dieu montre son amour en nous appelant, et Dieu montre son amour en nous mettant en Christ, et Dieu montre son amour en ce qu'il a fait de Christ, notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Quatre actes d'amour qu'on ne mérite pas, qui sont par grâce et par définition. Ça nous amène à considérer qu'on dépend complètement de Dieu, de Christ, et pour mon salut, et pour ma marche chrétienne. Dans ce passage, il nous montre qu'on est dépendant de la Trinité. Premièrement, de ce que Dieu a envoyé Jésus. Deuxièmement, en ce que Jésus a accompli le plan de Dieu. Et troisièmement, on dépend du Saint-Esprit en ce qu'il nous unit à Jésus et en ce qu'il fait qu'on peut participer au corps de Jésus. Et j'aimerais faire deux observations par rapport à ces versets 29 à 31. Premièrement, c'est qu'il nous montre que nulle chair ne peut se glorifier devant Dieu. Et c'est une exhortation à considérer cet appel comment? En considérant ce qu'on était avant, ou peut-être dans votre état actuel. C'est démontré par une argumentation qui est cohérente, objective, mais ça vise des dispositions aussi qui fait que l'homme n'est pas le centre, n'est pas cette gloire-là, mais il nous appelle à trouver cette gloire en Dieu, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est un portrait assez clair en ce qui concerne le fait que je reçois est toujours par grâce. C'est Dieu en nous. la nature de notre rachat, de notre rédemption, nous montre qu'on dépend de Dieu en toutes choses. C'est la cause première de notre salut. Il n'y en a pas d'autre. C'est de la propre initiative de Dieu de nous choisir et de nous avoir aimés. Et ce besoin de grâce, notre dépendance envers Dieu, est toujours accentuée ou renforcée quand on considère ce qu'on est réellement. Et c'est ce que Paul fait dans ses passages. Mais quand on regarde Jésus, par contre, et qu'on considère sa beauté, qu'on considère ce qu'il est, il est la gloire de Dieu. Où trouver notre joie? Où, sur quoi d'autre je pourrais me présenter devant Dieu? Sur qui d'autre? Sur qui? Jésus-Christ en nous. Ça, c'est la gloire de Dieu. Je n'allais pas en moi-même. La puissance de Dieu, c'est Christ en nous. Ce qui nous amène à notre deuxième observation. C'est pourquoi qu'on pourrait dire aussi qu'il nous montre que celui qui veut se glorifier, se glorifie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est Christ en nous. Il est à la fois celui qui va racheter et celui qui va payer. Il est le prix de notre rachat. Il s'offre lui-même. Jonathan Edwards a dit ceci: le saint a la joie et les plaisirs spirituels par une sorte d'effusion de Dieu dans l'âme. Ce qui m'amenait à considérer que finalement, Dieu met sa propre beauté en nous, c'est-à-dire sa ressemblance. Sa ressemblance, c'est Christ. Les paroles qu'on a entendues sur le mont de la Transfiguration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il dit qu'il s'en vient en nous. Il est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, je ne l'ai pas intrinsèquement, là. C'est Christ en nous. De là qu'on tire notre joie. Et ça nous amène à considérer, à réfléchir sur l'amour et la bonté de Dieu. Notre joie réelle. Et aussi, cet enseignement nous appelle à nous examiner nous-mêmes. Premièrement, à savoir, est-ce que j'ai cette relation-là avec Jésus? On ne parle pas de religion ici, là. C'est pas une religion. Tout le chapitre 1, c'est l'exposition de l'Évangile. Dieu envoie son Fils, lui-même, sa propre gloire qui l'envoie, qui vient prendre notre place, il devient péché pour nous, puis après ça, il nous dit que je te reconnais dans le fait que j'ai accompli cet acte pour toi. Et ça, c'est par amour. Le terme « appel », le terme « choisir » dans la Bible a toujours une connotation relationnelle d'intimité. Est-ce que vous avez cette relation profonde et intime avec Jésus? Et pour le croyant, est-ce que je rends gloire à Dieu dans ma propre relation que je suis censé avoir avec Christ? Et je ne suis pas indifférent de vous. Ça va bien, moi je suis en avant, puis tu sais, je proclame des belles paroles, là. Mais je réalisais hier soir que je ne l'ai même pas moi-même, la sainteté. C'est Christ en moi. Et si j'ai des pertes de joie dans ma vie chrétienne, souvent, probablement complètement, c'est à cause qu'il y a un péché à quelque part dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de trouver cette joie en Jésus, qui vous empêche de dormir le soir, qui fait que vous avez un problème avec Dieu, relationnel? Et on doit avouer qu'on n'est pas saint. Puis le texte nous amène à ça. Puis il parle à des chrétiens. Reconnaissons nous-mêmes, puis moi le premier, que dans la vie chrétienne normale, le cours normal des choses, je dépends de la grâce de Dieu. Et donc, on peut dire qu'en tout point, l'homme dépend de l'amour de Dieu et que Christ, Dieu est glorifié dans l'homme à cause de ça. Mais la dépendance, je ne vous ai pas menti, mais elle a au moins deux sens. La première, c'était ce sens de soumission, le fait que je ne peux pas accomplir un acte, et ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais si vous prenez aussi un livre de psychopathologie, de maladie mentale, elle va vous donner aussi cette définition. C'est le besoin de maintenir ou de conserver une relation. On le voit dans le fait, dans des couples qui ont des relations, est-ce qu'il y en a un que l'amour est trop grand, puis qu'on appelle ça un amour affectif dépendant, là? Tu sais, des dépendants affectifs, là? Un amène l'autre. Dans deux sens. Le premier sens, c'est un sens d'esclavage. Et si vous n'êtes pas en Christ, il y a quelque chose qui va être votre esclavage. On ne rend plus gloire à Dieu et je vais déterminer ce à quoi je vais rendre gloire. Et la majorité du temps, surtout en Occident, ce qui revient en premier, c'est moi-même. Je me place comme le centre de toute chose. Et tout tourne autour de ça. Et un débouche sur l'autre. Je deviens esclave de moi-même, de cette chair, de cette relation sans Dieu. Ça va engendrer quoi? Bien, toutes sortes de choses. Romains 1, 21, c'est le processus. Et ils n'ont pas glorifié Dieu, alors ils se sont fait des idoles. Et des idoles, dans ce cas-là, ce n'est pas toujours relié à une statue en bois ou en métal ou en pierre. Et là, ça commence. Le péché, c'est un problème moral, conséquence morale, qui débouche ultimement avec l'homosexualité, les fornications et tout le reste. Puis entre les deux, bien, c'est tout un processus qui fait que je me justifie moi-même dans mon comportement. Et je deviens esclave de ça. Mais dans un deuxième sens, c'est vrai dans la vie chrétienne. Si je dépends complètement de Christ, autant pour me sortir de mon premier esclavage, va déboucher sur le deuxième, le besoin de maintenir cette relation-là avec Dieu. C'est un processus par lequel on grandit en grâce. Si Dieu nous jugeait à toutes les fois qu'on fait un péché et il nous tuait, j'aurais même pas le temps de savoir que ça fait mal. Mais c'est un processus dans lequel Dieu nous reprend et que je veux maintenir cette relation et que je veux revenir à Jésus parce que le berger, il est tellement bon. Je pense à Timothée qui avait des problèmes. 2 Timothée 2.1 nous dit, « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » J'ai une formation en activité physique. Renforcer, prendre de la force, c'est un processus dans lequel je meurtris mon corps, dans le fond, pour qu'il se répare, puis je deviens plus fort. Et le processus de la grâce, ça ressemble à ça. Oui, on peut avoir des épreuves, oui, on peut avoir des choses qui font qu'on peut être instable dans notre vie chrétienne. Premièrement, ça nous rend compte qu'on est dépendant de Dieu et pour le salut et dans notre vie chrétienne. Mais on a le besoin de conserver cette relation-là et c'est dans cette relation-là aussi qu'on va pouvoir conserver notre joie. J'invite Will. On va terminer en chantant pratiquement comme une prière. Dieu est glorifié dans la dépendance de l'homme. On a essayé de montrer que bibliquement, un, c'était biblique, deux, qu'il y a plusieurs versets, mais que c'est une marque d'amour de Dieu envers nous. Mais ça nous amène à considérer aussi qu'on a besoin de Jésus seul.
chante ensemble. Levez-vous.
En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant est angulaire, sans lune en bas, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se fait.
Juste un chrétien qui peut chanter. En Jésus seul, mon espoir. Si aujourd'hui, vous êtes debout comme les autres, puis que vous aimeriez chanter ça parce que vous considérez l'œuvre de Jésus, venez nous voir. Venez me voir, on va jaser. Et à tous les enfants de Dieu qui êtes ici, on chante ce chant. Nous démontre aussi, et c'est la théologie du passage qu'on on dépend de Dieu même dans la vie chrétienne, même dans notre marche quotidienne. Et ça, c'est augmenté quand on considère Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Seigneur Dieu, on est tous debout ici devant toi et on doit confesser qu'on a besoin de ton esprit pour nous révéler toutes ces choses. C'est toi qui nous donnes l'intelligence. Tu étais une folie. Dieu qui descend puis qui meurt sur une croix. Et quand tu t'es révélé à nous, Seigneur, quelle puissance! Quelle puissance, Seigneur! Un plan de Dieu dans lequel tu t'es donné toi-même pour moi, parce que tu m'aimais, Seigneur. J'avais rien en moi-même. Sépare-nous avec ta bénédiction, Seigneur, et tout au long de cette semaine, par ton esprit, Seigneur, on te demande de pouvoir agir en nous, de travailler en nous. On veut te donner le libre accès, Seigneur, à ce que tu puisses nous enseigner par ta grâce. Donne-nous, Seigneur, non seulement de ressentir ton amour pour nous, mais de le manifester aussi, Seigneur, afin que nos chants ne se glorifient devant Dieu. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. À qui irions-nous? Merci, Seigneur. Amen.